Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur BFM Business sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera aux États-Unis avec une campagne électorale sur fond de bulletins de santé. En Syrie également, que penser de la trêve conclue sous l'égide des Américains et des Russes? En Libye, où se joue également une guerre du pétrole. Et puis la Russie, élection ce dimanche. Quel impact de la récession économique sur le parti de Vladimir Poutine? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde sur BFM Business avec Eduardo Cué qui est avec nous. Bonjour Eduardo.
Bonjour Fabrice.
Journaliste américain, chroniqueur international. Qatar Abou Diab est également avec nous. Bonjour Qatar.
Bonjour.
Qatar Abou Diab, il est consultant en géopolitique, enseignant à Paris Sud et membre de la rédaction des Cahiers de l'Orient. Alors justement, les États-Unis, direction donc, eh bien, on part de l'autre côté de l'Atlantique avec une semaine peu banal, marqué par le fameux malaise dû officiellement à une pneumonie, hein, vous savez, durant ces cérémonies du 11 septembre, le week-end dernier. Mais apparemment, ça va mieux pour Hillary Clinton en meeting jeudi soir en Caroline du Nord.
Je dois dire que c'est bon d'être de retour dans cette campagne. Comme vous le savez, j'ai récemment souffert d'une toux qui s'est révélée être une pneumonie. J'ai essayé de faire avec. Mais même moi, j'ai dû admettre que quelques jours de repos me feraient du bien.
Voilà, voilà, c'est ce qu'elle dit, Hillary Clinton, donc c'était jeudi soir. Eduardo Cué, il y a eu beaucoup de communication, évidemment, depuis cette scène inédite, hein, le 11 septembre, où on voit la candidate chancelant, soutenue par ses gardes du corps. 2 heures après, des grands sourires devant les caméras, il y a eu un coup de téléphone le lendemain à CNN, publication de bulletin de santé, Hillary Clinton, à qui on dit elle est apte, Donald Trump, excellente santé. La com, c'est fondamental. Vous avez suivi ces campagnes américaines dans votre pays.
Oui, oui, j'étais pendant assez longtemps cet été aux États-Unis. Faut dire que moi, ce qui m'étonne de cette histoire de Hillary Clinton, c'est comment est-ce qu'ils peuvent faire une faute pareille. C'est-à-dire, une pneumonie, c'est pas grand-chose, elle n'était pas mourante, et ça peut arriver à tout le monde, ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils peuvent essayer de nier ça ou de cacher ça? On dirait que Hillary Clinton et ses conseillers n'ont rien appris de l'histoire des emails. Fameuse, vous savez, du serveur privé pour ses communications officielles, même à des secrets d'État qui a causé tout l'été.
Ça quand elle était secrétaire d'État, et il y a une procédure qui est engagée contre elle, on verra jusqu'où elle aboutira, mais enfin en tout cas c'est vrai. Elle est dans l'œil du cyclone.
Elle est dans l'œil du cyclone et une faute pareille. Le problème pour elle, c'est que ça confirme pour beaucoup d'Américains le fait que Hillary Clinton, comme son mari, faut dire aussi, ont beaucoup de mal avec la vérité, ont beaucoup de mal avec la transparence. Et ça ne peut qu'aider Donald Trump. Maintenant, on n'a pas encore les sondages. On verra bien. Elle est rétablie. C'est plus ou moins évident par les images qu'on a vues. Mais quelles seront les retombées politiques de cette histoire, en tout cas une très mauvaise semaine pour Hillary Clinton, ça c'est sûr.
Ouais, quinte de toux, malaise, elle a invoqué donc des allergies, un coup de chaleur, une pneumonie dont elle serait atteinte depuis quelques jours. Qatar Abou Diab, ben, on ne badine pas avec la transparence aux États-Unis.
Oui, surtout, c'est la société de la communication, c'est la société de l'Internet. Tout est connu, tout est en direct. On a vu l'autre jour comment le président Obama lui-même il est venu en rockstar pour soutenir
Donald
Clinton, pour compenser cette absence. Mais ce n'est pas suffisant. Car enfin, Mme Clinton, elle pourrait avoir comme un grand atout son expérience, sa légitimité quand même. Mais malgré tout, ses manques de transparence avec cette répétition pourrait bien toucher la compagnie de Mme Clinton.
On va y revenir. Le camp Trump, évidemment, joue là-dessus, bien entendu, hein. Des rumeurs distillées, celle-là, avant le coup de chaud du 11 septembre. Et puis évidemment, c'est revenu dans la campagne cette semaine avec Donald Trump en meeting.
Pensez-vous qu'Hillary arriverait à se tenir debout une heure pendant un meeting? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Maintenant, à gauche, il ne reste plus qu'un candidat. Elle est dans son lit, elle se rétablit, et nous voulons qu'elle se rétablisse. Nous voulons son retour, pas vrai ? Oui, nous voulons son retour dans la course.
Nous voulons son retour dans la course. Bon, il est sincère, évidemment, Donald Trump ou pas ? Il est un peu ironique, comme souvent, non, Eduardo Cué ?
Non, je pense qu'il a, pour une fois, il a bien fait au niveau de la com, encore une fois. Il n'a pas tapé sur Hillary Clinton.
Il a été assez fair-play quand même,
il
dès le départ.
Il a été assez fair-play. Il a souhaité qu'elle revienne vite sur la course de la Maison-Blanche. C'est la moindre des choses, mais étant donné qu'il est Donald Trump, il faut le souligner quand même, parce qu'il aurait pu dire n'importe quoi aussi. Ce qui est intéressant de cette campagne électorale, Fabrice, c'est que, si vous vous souvenez, à la fin de la convention démocrate, au mois de juillet, elle était vraiment donnée pour gagnant Hillary Clinton. Donald Trump, il était mort pendant le mois d'août. Il a passé un mois extraordinaire. Et puis ensuite, Hillary Clinton, elle a disparu presque tout le mois d'août. Elle était en train de recueillir des fonds d'auprès des milliardaires américains. Et sans qu'on se rende compte, Trump, il est remonté dans les sondages. Et maintenant, c'est une course à la Maison-Blanche qui est très, très serrée. Ceci dit, il faut faire très attention, parce que cette campagne électorale, personne n'a vu venir. Il n'y a pas un seul homme ou femme dans ce monde qui aurait pu s'imaginer ce qui se passe. Et puis, comme je dis, fin août, Trump est mort, mi-septembre, ils sont
quasi
presque
à égalité.
Égalité, parce que
43-45 à peu près. Hein.
Oui, moi, tout à fait. Les derniers sondages que j'ai d'il y a un jour ou deux, New York Times, CBS, 42-42, mais avec des candidats qui ont un 8 points et l'autre 4 points.
Qui ça ?
Et ça, c'est 8 points, c'est Johnson, du Parti libertaire, celui qui connaissait pas Alep. Vous connaissez, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez d'Alep, et il a dit c'est quoi Alep ? Mais bon, il a 8% du Parti libertaire.
Oh, ça arrive puis, en France aussi, hein, on a des candidats qui connaissent pas forcément des grosses sociétés de l'Internet comme Le Bon Coin. Hop, je finis la parenthèse.
Allez-y. oui, tout à fait. Et puis, il y a Mme Stein qui représente les Verts, qui a 4%. Et là, maintenant, la campagne de Hillary Clinton, ils se disent, attention, on peut revivre ce qui s'est passé dans l'année 2000, quand Ralph Nader, du Vert, a effectivement empêché que Al Gore soit le président des États-Unis. Et donc, on a eu George Bush avec les résultats qu'on connaît.
Eduardo Cué, est-ce qu'Hillary Clinton, elle va pouvoir faire oublier cet épisode, ce malaise du 11 septembre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va devoir jouer sur quoi pour les 6, 7 dernières semaines ?
Mais je pense qu'elle devrait jouer. Est-ce qu'elle peut faire oublier cet épisode? Je ne crois pas. Franchement, non. C'est trop avec elle. Et depuis la présidence de son mari, il y a trop de choses, trop de demi-vérités, trop de secrets. Déjà, les Américains ne lui font pas confiance. C'est son grand problème. On ne lui fait pas confiance, y compris, il faut le dire, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Donc, elle pourra pas faire oublier. Ça, c'est clair.
Cap sur les gens de gauche, cap sur les jeunes aussi.
Je pense qu'une chose qu'il faut qu'elle dise, c'est de dire, écoutez, une présidence de Donald Trump serait une catastrophe pour le pays. Il faut éviter ça à tout prix. Et donc, il faut qu'elle aille vers les minorités qui sont de toute façon dans son camp, mais aussi pour les hommes blancs diplômés, bien éduqués.
Quand même, Eduardo Cué, c'est vrai qu'elle prend bien en tête régulièrement Donald Trump, le traitant de showman, comme elle l'a fait à Greensboro jeudi soir, dénonçant son intolérance, sa haine, ses mensonges racistes, je cite. Est-ce qu'il faut s'acharner contre Donald Trump, continuer comme ça, contre ses électeurs, quand par exemple, il y a 10 jours, elle estimait que la moitié des partisans de Trump étaient arrangés dans le panier des lamentables. Oui, c'était une sacrée gaffe. Hein.
C'était une sacrée gaffe juste avant l'histoire de sa santé, de sa malaise. Donc, deux gaffes de suite qui l'ont beaucoup affaibli. Mais vous avez raison, Fabrice, ça n'a pas marché parce que tous les candidats qui voulaient l'investiture républicaine ont fait la même chose contre Donald Trump. Et ça ne marche pas. Mais ce qui pourrait marcher, c'est de dire, écoutez, il n'y a pas de programme, c'est un homme instable. Et puis moi, j'ai l'expérience. Une chose qui était assez étonnante, c'est que beaucoup d'Américains, par exemple, ne connaissent pas ce que Hillary Clinton a fait au niveau de l'assurance santé, assurance maladie. Et donc, les camps Clinton se disent, mais comment est-ce possible ? Et donc, il faut beaucoup d'explications
de
ce qu'elle a fait, des communications de ce qu'elle a fait.
Qatar Abou Diab, qui est avec nous, qui est consultant géopolitique sur la campagne américaine. Hillary Clinton, Donald Trump, au coude à coude, justement. Ça va jouer sur quoi? Il y a un débat prochainement qui est prévu.
Oui, c'est-à-dire, notre ami vient de rappeler la campagne de 2000 et comment donc George Bush Jr. a pu passer dans les filets avec une petite différence. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une hypothèse pareille. Et ça se joue sur quoi? Car en fin de compte, moi je pense que connaître ou vivre des sujets à partir du 15 octobre. Ça se joue dans les trois dernières semaines. Et je pense que ça se joue, bien sûr, c'est peut-être là le bilan intérieur de l'Obama va être positif pour Mme Clinton.
Mais alors est-ce que Obama est le seul justement à pouvoir sauver le soldat Clinton? Il est entré dans la bataille Barack Obama cette semaine, notamment en meeting à Philadelphie.
This is not me going through the motions here. I really, really, really want to elect Hillary Clinton.
Voilà, c'est clair son message. Il veut Hillary Clinton. Eduardo Cué, il n'y a que lui qui peut sauver Hillary Clinton, très impopulaire malgré tout.
C'est possible. Moi, je pense que ce qui peut sauver Hillary Clinton, c'est que Trump fasse des gaffes pas possibles pendant ces trois débats dont on a fait référence tout à l'heure. Je pense que c'est absolument vrai. Les élections américaines se décident dans les dernières semaines. C'est historiquement le cas. Et donc, on verra à la fin octobre où on en est. Et comment est-ce que Trump peut sortir de ces débats? C'est pas gagné pour lui. Elle est beaucoup mieux à cet exercice que Trump, en principe, sur les papiers. Mais on verra bien. À ce qui concerne Obama, évidemment, il veut absolument que Hillary Clinton gagne parce que c'est son légué à lui. C'est la continuation, quelque part, de sa présidence. Il est toujours très, très populaire, Obama, il faut dire. En fin de mandat, depuis 8 ans, il a une popularité qui frôle les 60%. C'est quand même extraordinaire. Donc, il pourrait finalement l'aider beaucoup, mais ça dépendra, comme je dis, beaucoup d'elle d'un côté, et puis aussi, est-ce que Trump peut maintenir ces nouveaux stances présidentielles qu'il a donné depuis quelques semaines.
Ah ouais, de toute façon, on y reviendra dans 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio. En tout cas, ce malaise de Hillary Clinton est intervenu, vous le savez, donc le week-end dernier, dimanche dernier, en pleine cérémonie du 11 septembre à New York. Oui. Alors le 11 septembre 2001, 11 septembre 2016, Eduardo Cué, journaliste américain, citoyen américain, 15 ans après, comment les États-Unis ont-ils changé de visage?
Mais c'est-à-dire qu'il faut constater que depuis 15 ans, le monde, y compris les États-Unis, n'est pas plus sûr. Le terrorisme s'est répandu autour du monde. Je pense que même le 11 septembre 2001, on aurait eu du mal à imaginer tout ce qui s'est passé par la suite. Et tout ça, ils sont vraiment très inquiets, les Américains, comme les Européennes, de ces phénomènes du terrorisme.
Parce qu'ils ont eu quand même depuis, les Américains chez eux, le marathon de Boston, la tuerie par exemple dans la boîte gay de Orlando en Floride, c'était en début d'année également, il y a eu San Bernardino, il y a eu des tentatives bien entendu. Le terrorisme, finalement, n'a jamais cessé depuis 15 ans aux États-Unis, sous des formes différentes.
Sous des formes différentes, il n'a jamais cessé. Mais il faut dire aussi qu'en grande partie, c'est la faute aux dirigeants américains qui n'ont pas, par la suite, ils n'ont pas vraiment combattu cet islamisme radical comme il fallait. L'invasion de l'Irak, évidemment, c'est une catastrophe. C'est à l'origine de l'État islamique. Se débarrasser de Saddam Hussein, c'était une erreur. Saddam Hussein, c'était toujours battu contre l'extrémisme islamique. Et puis, ils n'ont pas su reconstruire l'Irak, bien au contraire. Ils ont nommé quelqu'un qui s'appelait Bremer.
Paul
Bremer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dissout l'armée irakienne, il a dissout les partis basses, et une grande partie de ces gens-là sont allés, surtout dans le nord de l'Irak, sont allés rejoindre ce qui est devenu l'État islamique. Donc, en quelque sorte, Washington n'a qu'à se blâmer à lui seul, à soi-même pour avoir créé cette circonstance. Et puis il faut dire aussi que Obama il s'est trompé aussi avec un retrait de l'Irak un peu trop précipité, et puis qui tout ça a ouvert la place pour l'État islamique.
Oui, c'est vrai, Qatar Abou Diab, ce que dit Eduardo Cué. Les cadres fondateurs ou cadres dirigeants de l'État islamique ont peu ou prou tous fait un petit séjour dans les geôles américaines en Irak. Et ce 11 septembre 2001, et l'intervention américaine est à l'origine du cauchemar, du chaos donc, que l'on vit au proche Moyen-Orient et en Asie centrale depuis.
Oui, ce qui est triste, 15 ans après le 11 septembre, le monde n'est pas plus sûr qu'avant. Et le monde vit un chaos stratégique. Mais il faut revenir à l'affaire afghane, au djihad afghan. Ça, c'était les laboratoires. Les laboratoires, c'était cette alliance entre l'Amérique et les djihadistes contre l'ex-Union soviétique.
L'armée rouge.
Et voilà. Et ça, c'est ça qui a donné après naissance à Al-Qaïda. Et voilà, l'Irak, c'était la réponse à 11 septembre. À l'époque, je me souviens, l'ancien président Jacques Chirac a averti George W. Bush en disant: cette guerre contre le terrorisme ne doit pas être une guerre classique. Ça doit être multiforme avec d'autres aspects. Et là, l'Amérique s'est trompée. Mmh. S'est trompée des stratégies en allant de nouveau en Afghanistan et en allant de nouveau en Irak. Et maintenant, on paye les frais de cette nouvelle stratégie américaine. On a pensé, peut-être quelques nouveaux conservateurs à l'époque, de faire un chaos créatif. Maintenant, on a ces chaos qui n'est pas du tout créative en Syrie, en Libye, au Yémen et partout. Il est tout à fait destructif. Le terrorisme, c'est vrai, il frappe d'une façon mince les États-Unis, mais il intervient en Europe, on a les réfugiés, on a donc une situation incontrôlable. Et c'est vrai, si le leadership américain ne s'exerce pas pour faire face aux conséquences de l'action des États-Unis et aussi à cette menace radicale qui est une menace barbare, c'est très grave.
Ah oui, on a parlé de l'Irak, de l'Afghanistan, on parlera de la Libye aussi dans 5 minutes. Eduardo Cué.
Oui, on peut dire que l'Europe paye pour les erreurs de George W. Bush, à tous les problèmes des migrants, par exemple. L'origine de tout ça, c'est exactement l'invasion de l'Irak. Et justement, Jacques Chirac avait dit à George W. Bush, dans une conversation privée, il lui a dit: George, n'y allez pas, parce que vous allez créer des dizaines de Oussama Ben Laden. Et voilà, c'est fait.
Quel regard on porte aux États-Unis sur les musulmans en France? Évidemment, on ne va pas revenir sur le débat en cours, mené à tort ou à raison, ces amalgames, ces assimilations, peu importe. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on dit en ce moment, Eduardo Cué?
Bon, on a rien compris. Vous faites allusion évidemment au Burkini.
Tout. Voilà.
On a rien compris à ces débats-là. Mais il faut dire que.
Mais aux États-Unis, est-ce qu'il y a un tel débat qui est en cours? Est-ce qu'on ostracise? Est-ce qu'on regarde les musulmans?
Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, absolument. Et c'est Trump, quand Trump a dit: je veux interdire l'entrée de tout musulman dans ces pays pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment vérifier qui ils sont, il y a eu un écho. C'est sûr et certain qu'aux États-Unis, peut-être pas au même niveau qu'en Europe, parce qu'ils sont plus loin, mais il y a ces méfiances de musulmans.
Même il y a une réaction plus, aux États-Unis, plus forte que les réactions en Europe. La mosquée d'Orlando, où ces tueurs qui a fait le massacre dans le bar, la mosquée elle-même a été détruite il y a peu de temps par un attentat. Donc là, je pense quand même, ce qui est grave dans le monde d'aujourd'hui, On est dans une crise profonde des civilisations. Cette crise se manifeste à plusieurs niveaux. C'est pas seulement la barbarie de Daesh. La barbarie de Daesh, c'est une des manifestations de cette crise profonde. On a aussi ces discours de la haine et ces discours de la non-reconnaissance de l'autre. Et malheureusement, ces discours n'est pas simplement concentré dans l'islam ou dans l'islamisme radical, on le voit aussi avec d'autres. Et pour cela, s'il n'y a pas un réveil de l'humanisme en nous, quelque part, un réveil de valeurs qu'on défend, ça va devenir un monde encore moins sûr.
Qui peut susciter ce réveil des deux principaux candidats, Hillary Clinton, Donald Trump? Je sais pas, spontanément, aucun des deux dans ma tête, mais Eduardo Cué, dites-le-moi, rassurez-moi.
Certainement pas Donald Trump, peut-être Hillary Clinton, mais peut-être. Le problème, c'est que les gens ont peur, et quand les gens ont peur, ils ne sont pas très rationnels.
Ouais. Barack Obama, il va partir le 20 janvier 2017. Guantanamo, toujours ouvert, Guantanamo, avec encore une soixantaine de détenus, plus ou moins dangereux. Il avait promis de fermer Guantanamo. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est un échec ou alors vraiment, il n'y a pas de solution?
Il n'y a pas de solution dans la mesure où les États-Unis ne veulent pas que les gens qui sont à Guantanamo entrent dans les territoires américains et qu'ils soient jugés par la loi américaine. Voilà les problèmes.
Il faut être tolérant avec Obama, car on ouvre d'autres Guantanamo à travers la planète. Car en fait, face à l'échec lamentable dans cette lutte contre le terrorisme, on a plus de problèmes partout.
À suivre, justement, dans 7 jours dans le monde, on va se retrouver dans un instant, cette fragile trêve en Syrie. Restez avec nous.
BFM Business, 7 jours dans le monde. BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio. Toujours avec nous, il y a Qatar Aboudiab, enseignant à Paris Sud, consultant en géopolitique, membre de la rédaction des Cahiers de l'Orient, et puis le journaliste américain Eduardo Cué, chroniqueur international. 7 jours dans le monde avec trop longue chronique qui ensanglante la Syrie. Genève, le week-end dernier, le russe Sergueï Lavrov et l'américain John Kerry négocient et obtiennent d'imposer une trêve aux différents belligérants à la veille de l'Aït el-Kabir, la grande fête musulmane. Et les habitants d'Alep, ils tentent d'y croire.
Nous sommes optimistes concernant le cessez-le-feu. Nous souhaitons tous de bonnes choses à notre pays, surtout la sécurité.
Voilà donc cet habitant d'Alep qui croit Qatar Aboudiab. Sur le terrain, peut-on croire vraiment à cette trêve qui rompt ça et là de façon plus ou moins brutale, plus ou moins violente, qui ne concerne pas, on va le rappeler, l'État islamique et puis les ultras notamment du front al-Nosra?
Il faut toujours croire, il faut toujours même être très attaché à ces minces fils d'espoir en Syrie, car cette tragédie est énorme. Je rappelle simplement que les chiffres de cette catastrophe oscillent entre 400 000 et 600 000 morts. Et les chiffres de déplacés et de réfugiés entre 10 millions et 11 millions de personnes sur 23 millions d'habitants. C'est peut-être le drame le plus affligeant du 21e siècle et peut-être depuis longtemps. Et pour cela, aujourd'hui, juste avant d'entrer au studio,
il y a toujours des incertitudes, on en parle.
Il y a les aides n'entrent pas à Alep et à Damas, il y a une flambée de violence. Et les Russes venaient de dire qu'ils vont intervenir pour convaincre le régime syrien de respecter la trêve. Là, c'est un test pour le maestro américain qui s'appelle John Kerry et pour les parrains, les véritables parrains de cette trêve, monsieur Sergueï Lavrov. Jusqu'à maintenant, ils ont fait un travail depuis 2012 qui n'est pas utile. Ils n'ont pas pu empêcher l'escalade en Syrie. Et je ne pense pas que dans les derniers mois de la présidence Obama, on aura quelque chose de positif.
Vous pensez, Eduardo Cué, en effet, comme le laisse entendre Qatar Aboudiab, que Américains et Russes arriveront à faire pression sur leurs différents alliés sur le terrain?
Mais moi, je ne suis pas très optimiste. Tout simplement parce que je ne doute pas que peut-être les Russes et les Américains voudraient quand même finir avec cette guerre épouvantable. Mais le problème, c'est que pour Damas, perdre Alep, qui est la deuxième ville du Syrie, c'est inacceptable. Non. Pour les rebelles, s'ils sont chassés de l'est d'Alep, alors qu'est-ce qui leur reste? Pas grand-chose. Donc c'est vraiment là où ça se joue.
Quand on parle des rebelles, on le rappelle, ce n'est pas l'État islamique, ce sont d'autres rebelles qui affrontent l'armée de Damas de façon très dure depuis au moins 6 mois.
Absolument. Et donc, s'ils sont chassés donc d'Alep, ils seront réduits à quelques endroits sur le territoire syrien. Donc c'est une question de vie ou de mort.
Et le terrorisme, dans ce cas, les radicalismes, c'est-à-dire de l'État islamique, comme de l'ancien Front Nusra appelé maintenant la Fatah al-Sham ou la conquête de la Grande Syrie, va aussi, cette, il y aura plus de récrits.
De radicalisation, pour, bien sûr, de recrues.
Les terrorismes.
C'est l'ancien Al-Qaïda, Al-Nusra.
Il faudrait aussi rappeler que lors de la dernière trêve, au mois de février, Bachar al-Assad, le régime à Dama, n'a pas respecté la trêve. Il recommençait le bombardement à l'aveugle. Et donc, elle n'a pas beaucoup de crédibilité. Et justement, les groupes rebelles disent qu'il n'y a pas de mécanisme pour imposer des punitions ou des sanctions à qui peut violer cette trêve. Donc, moi, je ne suis pas du tout optimiste que ça va.
Ce qui est grave aussi, que la France hier demande aux États-Unis d'éclaircissements. Qu'est-ce que cette trêve contient? Quel est cet accord? Quelle est l'entrée de cet accord? Le fait aussi d'exclure l'Europe, bien que l'Europe subit le problème syrien avec le terrorisme et avec les réfugiés. En fait, je crains fort que les États-Unis veulent faire parfois, lorsqu'il faut combattre la Russie, on combat la Russie en Ukraine, on dépend de l'Europe, et lorsqu'on veut faire de l'accord avec la Russie, on fait cet accord à Damas, on dépend de l'Europe. Et ça, c'est grave du point de vue alliance, et ça demande une réflexion européenne de ce qui reste de l'Europe, surtout entre l'Allemagne et la France d'un côté, et la France et la Grande-Bretagne de l'autre côté.
Il y a d'autres débats en cours en Europe, bien entendu, vous parliez de l'aide humanitaire, alors évidemment, toujours bloquée, celle-là. On rappelle, il y a 250 000 habitants bloqués à Alep. Est-ce qu'il y a un volet politique, justement? Un volet un peu absent, j'ai l'impression. Parce que quid de Bachar al-Assad? Alors, on l'a vu cette semaine déambuler dans les rues d'un quartier dévasté de Damas. Il est toujours là, Eduardo Cué.
Il est toujours là, et puis c'est peut-être aussi une des fautes qui ont été commises par Washington, mais aussi par Paris, c'est d'insister le départ de Bachar al-Assad.
Au départ, sur son départ.
Sur son départ, ils se sont bloqués là-dessus, et puis maintenant...
Ça a changé.
Ça a changé, mais bon, ça a duré longtemps. Ce qui est important de cet accord de trêve, c'est que, du point de vue diplomatique, Obama, il a vraiment besoin de faire quelque chose en Syrie, parce que son bilan en ce qui concerne la Syrie, il est quand même très négatif. Donc, il a besoin d'aller la semaine prochaine aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et présenter une trêve. Et pour Moscou, qui, à mon avis, est encore une fois le gagnant de tout ça, Vladimir Poutine est maintenant l'interlocuteur direct des États-Unis. La Russie est de retour au Moyen-Orient, et puis il a réussi ce coup qui n'est pas la moindre chose.
Ouais, retour de Poutine comme interlocuteur direct des États-Unis, après deux ans de crise, de tension autour de l'Ukraine.
Oui, Poutine s'impose comme le nouveau tsar. Mais je rappelle que le retour de Poutine en Syrie, le retour de la Russie, n'aurait pas été possible sans l'aide iranienne. Mmh. Et là, c'est la double faute d'Obama. Obama, c'est un échec moral et politique en Syrie. Mais Obama aussi, qui a fait tous les paris sur l'Iran pour que l'Iran devienne un partenaire, la Russie l'a précédé dans ce sens. Il y avait, au mois d'août, pour la première fois, l'Iran cède une base stratégique pour le départ des bombardiers russes afin de bombarder la Syrie. Et ça, c'est pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'Iran accepte la présence étrangère sur son sol. Et maintenant, M. Poutine s'impose, même avec les pays du Golfe, même avec la Turquie. Il ne faut pas minimiser quand même la normalisation entre Moscou et Ankara. Et là aussi, donc, les États-Unis sont perdants sur toute la ligne. Et s'il n'y a pas une réflexion, une recomposition de cette politique américaine.
Alors, autre pays arabe fragilisé, la Libye, avec cette semaine les regards tournés vers le croissant pétrolier. Cette région, on est dans le nord-est du pays, entre Sirte et Benghazi. Et là, les principaux terminaux portuaires sont tombés aux mains de l'homme fort de l'Est, le général Haftar, rival du gouvernement d'Union nationale au pouvoir depuis le printemps. Qui est le général Haftar, Qatar Abu Dhabi, celui qui a mené cette opération finalement dans le plus grand secret, qui a surpris tout le monde en prenant les terminaux pétroliers?
Mais le général Khalifa Haftar, c'est un ancien de chez Kadhafi, mais l'un des premiers dissidents contre Kadhafi. Avant 2011, il a été à un moment donné même réfugié aux États-Unis. Et puis, il a pris les armes après le départ de Kadhafi. Il a reconstruit ce qui est possible de l'armée nationale libyenne dans l'Est libyen, avec l'aide des pays régionaux importants comme l'Égypte, les Émirats arabes unis et aussi la Jordanie. En face, les gens islamistes et autres de Tripoli et de Misrata sont aidés par la Turquie et le Qatar, mais aussi la Tunisie, l'Algérie ne le voient pas d'un mauvais œil. Là aussi, entre les grandes puissances, il y a dans les apparences une entente autour du gouvernement de Tripoli. Mais dans la réalité, la France se trouve aussi dans l'Est avec Haftar. Là aussi, l'Italie jouait un autre jeu avec Misrata. Il y a des cités-États en Libye, il y a un pays vraiment éclaté, ce qui est très grave. Mais là, ce qui est positif dans l'action de Haftar, pour la première fois, le pétrole libyen est contrôlé par une armée libyenne. Et je pense qu'il y a une possibilité que Haftar, maintenant on a le commencement même de la vente de pétrole de deux ports,
repris,
je pense, le prix serait quoi ? Serait que le conseil présidentiel à Tripoli reconnaît Haftar comme chef de l'armée, et comme ça Haftar donne les recettes de pétrole. Donc ce serait, s'il y a une volonté internationale, on pourrait faire un accord autour de ça. Ce n'est pas un développement négatif.
Oui, c'est une façon pour lui, pour le général Haftar, quelque part, de peser dans le jeu politique.
Exactement.
Il n'a pas forcément des velléités.
Non, lui, Haftar, avant, d'état. Il voulait être Kadhafi bis.
Oui.
C'est impossible, mais on peut maintenant, l'Occident, les forces influentes, pourraient, en fait, user de cette force de Haftar pour faire un nouveau départ en Libye, s'il y a, comme dit, cette volonté et un consensus international.
Oui, parce que pour l'instant, le gouvernement national d'union au pouvoir depuis le printemps, ça a l'air quand même, tant bien que mal, de tenir. Gouvernement mis en place sous l'égide de l'Italie. Hein.
Oui, sous l'égide pas seulement de l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tout le monde a travaillé dans ce sens. Mais c'est vrai que les Italiens, comme toujours dans les anciennes colonies, et la France était dans le sud de la Libye, je rappelle les auditeurs, dans le sud, tandis que l'Italie dans l'est, et l'ouest, toujours les Américains et Britanniques étaient là. Et là, maintenant, on essaye de faire un condominium autour de la Libye, un nouveau partage, mais je pense avant tout il faut que les Libyens s'entendent et il faut faire ça avec vraiment de l'invention, de la créativité. C'est possible, je dis de nouveau.
Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir.
Voilà. Alors la Libye qui avait sombré dans le chaos islamiste et au-delà de ça, une grande partie de la région en 2011, après la mort de Kadhafi suite à l'intervention de l'OTAN avec aux avant-postes américains, britanniques, et français. Tiens, souvenez-vous d'ailleurs de cette visite aux allures de triomphe à Benghazi de David Cameron avec Nicolas Sarkozy.
Vive Benghazi ! Vive la Libye ! Vive l'amitié entre la France et la Libye !
Alors ça, c'était en 2011, Nicolas Sarkozy avec à ses côtés un certain Alain Juppé. Les deux hommes montrés du doigt par un rapport sans concession du Parlement britannique, c'était mercredi. Il leur a reproché, Édouard Ducuy, d'avoir surestimé, exagéré la situation en Libye pour en tirer, alors je résume hein, évidemment, pour en tirer un intérêt politique et économique dans le pétrole libyen et d'avoir voulu, spécialement pour Nicolas Sarkozy, en tirer un profit électoral. C'est Paris qui a tiré les ficelles dans cette histoire, dans cette intervention de 2011. Sarkozy, président, Juppé, aux affaires étrangères.
Je pense que c'est Sarkozy, mais avec Cameron, tous les deux. Et puis il y a eu derrière les États-Unis, Obama, que il voulait pas trop y aller, mais sous la pression de Hillary Clinton, a aussi ajouté donc avec un bombardant la Libye, donc pour se débarrasser de Kadhafi. C'est évidemment une erreur absolument historique. Et les rapports dont vous faites allusion, Fabrice, citent des conseillères de Mme Clinton qui disent qu'effectivement, M. Sarkozy voulait accroître la présence française en Afrique, voulait se donner plus de chances pour son élection, réélection à la présidence, c'est-à-dire des motivations qui ne sont pas jolies, franchement. Des motivations motivation politique. Et puis la Commission dit aussi que un grand parti, cette histoire, c'est à l'origine aussi de cette crise des migrants aussi qui continue aujourd'hui, parce qu'il y en a énormément, si c'est pas la plupart, qui quittent l'Afrique par les côtes libyennes. Donc une erreur historique de la part de Sarkozy et de la part de
Cameron qui est aussi critiqué pour sa méconnaissance de la situation, pour avoir été pris dans l'enchaînement des événements. Est-ce qu'on peut faire, pardon, le parallèle entre 2001, George W. Bush qui, pour des raisons aussi internes, politiques, décide de partir déjà en Afghanistan, puis surtout après en Irak en 2003, bien sûr, en inventant toutes sortes d'armes de destruction massive, bien sûr. Et puis, les velléités de Nicolas Sarkozy de jouer de la carte libyenne pour des fins électorales.
Écoutez, je pense que George W. Bush, surtout, voulait continuer ce qu'il appelait le job de son père, le job non fini par George Bush en 1991, à l'époque de la guerre
du Koweït,
de libération du Koweït. Mais c'est vrai que là, la question peut-être pour la France et pour les États-Unis, comme les États-Unis ont pensé remodeler le Moyen-Orient à travers l'Irak, peut-être M. Sarkozy a eu une volonté de redonner un rôle à la France, mais aussi de profiter d'une façon électorale par cette affaire libyenne. Et il y avait quand même une erreur globale, car enfin, la France qui n'a pas pu accompagner ce qui s'est passé en Tunisie, elle voulait faire un rattrapage en Libye. C'était un mauvais rattrapage. Un mauvais rattrapage où aussi Kadhafi n'est pas un ange. Kadhafi a joué beaucoup les chantages contre l'Occident. Il a fait beaucoup de mal à son pays avant tout et aux autres. Et là, pour Sarkozy, pour Cameron, même pour Obama, c'était un moment aussi de vengeance contre Kadhafi. Et Kadhafi, lui, il a préparé le terrain pour ça. Mais à mon avis, il y avait un manque de raison des grands hommes d'État à ces moments-ci, car on n'a pas mesuré les conséquences de l'éclatement de la Libye. À mon avis, les conséquences de l'éclatement de l'Irak, comme les conséquences de l'éclatement de la Libye, sont énormes. Et comme on a prêché par orgueil en Libye pour cette opération de l'OTAN, on s'est trouvé en Syrie avec un grand manque, avec la non-intervention. Donc c'était un échec sur tous les plans.
Oui. On se demande vraiment ce qui se passe dans la tête de somme qui nous dirige, franchement, parce que c'est exactement la même erreur qui a été commise en Irak. George Bush ne voulait pas entendre raison. Là, ce qui concerne la Libye, c'est pareil pour Sarkozy et pour Cameron. Je suis absolument d'accord que Sarkozy, parmi les choses qu'il voulait faire, c'est faire pardonner, entre guillemets, l'effet que la France avait soutenu Ben Ali pendant les printemps arabes. Mais on dirait qu'ils ne veulent pas écouter raison, qu'il ne pense pas aux conséquences. Il ne faut pas non plus être un génie en géopolitique pour savoir que déstabiliser un pays comme la Libye, qui était un pays qui est composé de tribus très difficiles à gouverner...
Il aurait fallu faire quoi ? Penser plutôt à l'après, c'est ça, non ?
Penser plutôt à
Parce qu'il y avait un drame humanitaire qui se nouait quand même,
oui,
à Benghazi.
Mais on peut essayer de soulager le drame humanitaire.
On aurait pu faire une opération limitée à Benghazi,
oui,
et ne pas aller plus loin.
Oui. Et ne pas toucher Kadhafi, peut-être.
Exactement. Et puis,
Kadhafi ou non, c'est le peuple libyen qui aurait choisi, dû décider.
Et puis, il faut dire aussi que Kadhafi, qui avait été reçu en grande pompe à l'Élysée par M. Sarkozy, il faut dire que Kadhafi était neutralisé à ce moment-là.
Avec l'Italie de Berlusconi, Kadhafi.
Il était neutralisé, Kadhafi. C'était plus une menace. Mm. Tout comme Saddam Hussein, qui n'était plus une menace. Mais bon, ils ne veulent pas entendre raison, ils ne veulent pas penser aux conséquences. Et voilà les résultats.
Bon, à suivre. 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio. Les Russes qui votent dans un contexte économique morose pour renouveler la Douma. Et puis le Dalai Lama qui n'a pas vu François Hollande. À tout de suite.
BFM Business, 7 jours dans le monde. BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
C'est toujours avec Eduardo Cué et Qatar Abou Diab. 7 jours dans le monde sur BFM Business. L'actu internationale, la Russie qui vote ce dimanche pour renouveler les 450 députés de la Douma. Dans un contexte particulier qu'on vous raconte bien sûr régulièrement sur BFM Business, parce que le pays ne va pas bien économiquement, le prix du pétrole en recule, l'embargo, les sanctions, la hausse de l'inflation, les revenus des Russes qui sont à la baisse. Question Eduardo Cué, quelle incidence sur le parti de Vladimir Poutine, sur Russie Unie ?
Bon, c'est sûr et certain que Russie Unie aura la majorité à la Douma. Ceci dit, les sondages montrent qu'au printemps, il y avait 42% de voix, et là, maintenant, c'est descendu à 31%.
Donc, 10 points de moins.
Tout ça, ce que vous venez de dire, tout ça compte, évidemment, la récession, les prix du pétrole, les sanctions, etc. Et il se peut que, si ça va vraiment pas bien, Dmitri Medvedev, le premier ministre, soit remplacé. Mais Poutine, qui est resté un peu à l'écart...
Oui, il ne fait pas campagne, à la différence de Medvedev. Hein. Il ne fait pas campagne, Vladimir Poutine, il ne se montre pas, à la différence de son premier ministre.
Tout à fait, et donc c'est peut-être son premier ministre qui va payer les pots cassés. Mais ceci dit, c'est une élection entre guillemets, parce que l'opposition, la véritable opposition, n'existait presque plus.
L'opposition libérale, notamment,
voilà.
Celle qui en 2011 avait pu mettre dans la rue quelques 100 000 personnes. Là, en face de Russie Unie, on a quoi ? Des partis d'opposition autorisés.
Voilà.
Plus ou moins favorable au gouvernement.
Créé de toutes pièces presque. Et il faut dire aussi pour finir, c'est que l'opposition libérale a été discréditée par le régime pour soi-disant son opposition à l'histoire des Crimées. Et donc aujourd'hui, elle se trouve dans une situation très difficile, comme si elle était l'agent à la cinquième colonne ou l'agent de l'Occident à l'intérieur de la Russie.
Oui, la Crimée qui vote, hein, côté russe cette fois, non plus côté ukrainien. Oui. Qatar Abou Diab qui est avec nous, consultant en géopolitique. Hein.
Oui, à travers ces élections, on comprend bien quand même que ce système devient plus autoritaire et plus personnel, que la démocratie en Russie maintenant en panne. Et M. Poutine profite de ses exploits extérieurs pour cacher aussi ses grands problèmes structurels à l'intérieur. C'est un pays qui souffre. Il n'y a pas de pouvoir d'achat. Les classes moyennes et les classes ouvrières souffrent le plus. Et je pense qu'il évite les problèmes internes. Il joue parfois avec un bal de nomination. Il a évincé Ivanov, son fidèle, qui a été le directeur de son cabinet, peut-être pour le mettre à la place de Medvedev en cas d'échec relatif aux élections. Mais il y a une autre procédure pendant cet été. Il a nommé tout à fait de nouveau gouverneurs et de nouveaux dirigeants de provinces qui sont tout à fait apparemment non compétents, mais la seule compétence, c'est leur loyauté absolue par rapport à Vladimir Poutine. Donc, on a un retour en arrière en Russie et un retour inquiétant.
Et on en parlait la semaine dernière dans 7 jours dans le monde avec Jean-Luc Sauron, avec Jean-Dominique Merchet, le G20 en Chine, avec triomphant quelque part face à des démocraties occidentales un petit peu affaiblies. France, Grande-Bretagne, États-Unis, on avait qui ? On avait Poutine,
oui.
On avait Xi Jinping et on avait Erdogan. Par exemple.
Exactement.
En Turquie. Voilà.
Ce qui est grave aussi, il a fait après les grandes manœuvres militaires avec les Américains, avec les Chinois dans la mer de Chine méridionale face aux Américains. Monsieur Poutine tente à travers, comme j'ai dit, les aventures extérieures avec les chantages de sa force stratégique de s'imposer. Et ça aussi, c'est inquiétant. Et je pense que si l'Occident ne se réveille pas avant, à temps, ce serait très dangereux pour la prochaine décennie.
Reste à savoir s'il pourra s'affranchir ou pas de lancer des réformes à but économique, réformes libérales. On verra évidemment pour redonner un coup de boost à cette économie russe. Il nous reste 2 minutes avant de nous quitter dans 7 jours dans le monde. Le Dalai Lama à Paris, première visite depuis 5 ans cette semaine, avec des conférences, des rencontres, des discours avec des avocats, l'INALCO, avec les Tibétains en exil en France, au Palais des Congrès, au Conseil de l'Europe. Mais aucun contact avec les autorités officielles, ministre, Premier ministre, Président de la République. Oh, le Dalai Lama n'a pas l'air de s'en offusquer.
Ce n'est pas une tournée politique. Je n'ai rien à demander à votre président. Si c'était le cas, alors je me sentirais déçu. Mais puisque je n'ai aucune requête particulière, il n'y a pas de problème.
Bon, il a l'air bien gentil, le Dalai Lama, oui. C'est un pestiféré, il faut surtout pas fâcher Pékin, Édouard Ocué.
Mais c'est ça, malheureusement, oui, c'est bien triste, je trouve que c'est bien triste. Aujourd'hui, il faut pas fâcher Pékin, ce sont les nouveaux maîtres où on agit comme si c'était le cas, et c'est presque le cas. Et donc, il faut pas fâcher Pékin parce que derrière, il y a des milliards de euros en contrat, etc., etc.
De la même façon, Qatar Abou Diab, on va remettre la Légion d'honneur à un prince saoudien parce qu'éventuellement, il y a des contrats à la clé. Mais le Dalai Lama, surtout,
non.
Ouh là là, on ne le regarde pas. Hein.
C'est dommage, c'est dommage. On aurait pu l'accueillir comme chef religieux aussi, comme on accueille les autres. Mais de toute façon, ça signifie quand même que les autoritaires gagnent.
Merci beaucoup, Qatar Abou Diab, enseignant à Paris Sud, consultant en géopolitique, membre de la rédaction des Cahiers de l'Orient, avec nous également, et on le retrouvera évidemment dans 7 jours dans le monde, Edouard Ocu, journaliste américain à l'approche de du scrutin présidentiel. Ce sera le 8 novembre, hein, Edouard Ocu, chroniqueur international. À très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.